Notice. Il est d'autant plus à regretter que Rousseau n'ait pas continué cet ouvrage, que dans une lettre à Dupérou du 6 juillet 1768, où il le prie de lui en envoyer le manuscrit, il annonce le désir de le revoir, pour remplir par un peu de distraction les mauvais jours d'hiver. « Je conserve, ajoute-t-il, pour cette entreprise, un faible que je ne combats pas, parce que je n'y trouverai, au contraire, un spécifique utile pour occuper mes moments perdus, sans rien mêler à cette occupation qui me rappela le souvenir de mes malheurs, ni de rien qui s'y rapporte. » La lettre de M. Prévost, qu'on va lire, prouve que le manuscrit lui fut en effet renvoyé. Extrait d'une lettre du professeur Prévost de Genève au rédacteur des archives littéraires, sur Jean-Jacques Rousseau et particulièrement sur la suite de l'Émile ou les Solitaires. Messieurs, l'avantage dont j'ai joui de voir souvent Jean-Jacques Rousseau dans sa vieillesse m'a donné lieu de faire quelques remarques que je hasarde de vous communiquer. Ce sont de petits faits liés à un grand nom qu'il vaut mieux recueillir que laisser perdre. Je sais qu'il avait brûlé quelques-uns de ses manuscrits. Ses œuvres posthumes ont fait connaître les plus intéressants de ceux qu'il avait épargnés. Je lui ai ouï dire qu'à son départ de Londres, il avait fait un grand feu d'une multitude de notes destinées à une édition d'Émile et qu'il l'embarrassait en ce moment. Rousseau ne m'avait jamais mis dans la confidence de ses mémoires. Il n'avait fait que me les nommer à l'occasion de la crainte qu'il eut de les avoir perdues. Mais il me procura un très vif plaisir par la lecture qu'il voulut bien me faire du supplément à l'Émile. Ce morceau apparut dans l'édition de Genève sous le titre d'Émile et Sophie ou les Solitaires. Il est demeuré imparfait et fini à l'époque où Émile devint esclave du dey d'Alger. Rousseau ne s'en tint pas à la lecture de ce fragment qui acquérait un nouveau prix par l'accent passionné de sa voix et par une certaine émotion contagieuse à laquelle il s'abandonnait. Animé lui-même par cette lecture, il parut reprendre la trace des idées et des sentiments qui l'avaient agité dans le feu de la composition. Il parla d'abondance, avec chaleur et facilité, ce qu'il faisait rarement. Il me développa divers événements de la suite de ce roman commencé et m'en exposa le dénouement. Le voici tel que me le fournissent quelques notes faites de mémoire. On sera, j'espère, assez juste pour ne pas imputer à l'auteur ce qu'il peut offrir d'irrégulier dans une esquisse aussi légère et qui, sans être infidèle, peut dérober quelques traits que le tableau eût fait ressortir. Dénouement des Solitaires. Une suite d'événements amène Émile dans une île déserte. Il trouve sur le rivage un temple orné de fleurs et de fruits délicieux. Chaque jour il le visite et chaque jour il le trouve embelli. Sophie en est la prêtresse, Émile l'ignore. Quels événements ont pu l'attirer en ces lieux? Les suites de sa faute et des actions qui l'effacent. Sophie enfin se fait connaître. Émile apprend le tissu de fraude et de violence sous lequel elle a succombé. Mais indigne désormais d'être sa compagne, elle veut être son esclave et servir sa propre rivale. Celle-ci est une jeune personne que d'autres événements unissent au sort des deux anciens époux. Cette rivale épouse Émile, Sophie assiste à la noce. Enfin, après quelques jours donnés à l'amertume du repentir et au tourment d'une douleur toujours renaissante et d'autant plus vive que Sophie se fait un devoir et un point d'honneur de la dissimuler, Émile et la rivale de Sophie avouent que leur mariage n'est qu'une feinte. Cette prétendue rivale avait un autre époux qu'on présente à Sophie, et Sophie retrouve le sien, qui non seulement lui pardonne une faute involontaire, expiée par les plus cruelles peines et réparée par le repentir, mais qui estime et honore en elle des vertus dont il n'avait qu'une faible idée, avant qu'elles eussent trouvé l'occasion de se développer dans toute leur étendue.